Romain Aumont, macroéconomiste et stratégie chez Natixis IM. Bonjour Romain. Bonjour, le dollar est ce matin sur des plus hauts de 13 mois. Alors ça se voit notamment sur l'euro-dollar, hein, mais c'est sur un panier de devises que le dollar s'est renforcé. On est ce matin sous les 1,14 hein, sur la parité euro-dollar, 1,1355. Avec, depuis quelques jours maintenant, un marché qui est en train de refaire ses calculs. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez Natixis, depuis la réunion de Kevin Warch, en tout cas sur de probables hausses de taux, non pas d'ici à la fin de l'année, mais peut-être même dès septembre. En tout cas, probabilité 70% sur le baromètre FedWatch.
Absolument. Donc, par rapport à cette paire euro-dollar, on aurait pu croire qu'avec la décélération ou la baisse des prix des matières premières énergétiques, on allait avoir une appréciation de l'euro, dans la mesure où l'Europe est vraiment dépendante énergétiquement, et donc on sait qu'il y a une corrélation qui est tout à fait significative entre l'euro-dollar et le prix des matières premières énergétiques. Maintenant, qu'est-ce que ça signifie derrière? Si vous avez des matières premières énergétiques qui baissent et un euro-dollar qui baisse, ça veut dire qu'il y a quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, on l'interprète de deux manières chez Natixis IM. Premièrement, on a un facteur croissance qui va expliquer cette dynamique, et un facteur politique monétaire que vous avez souligné. Sur le facteur croissance, on a finalement un différentiel de croissance qui commence à être de plus en plus tangible. On a ce choc énergétique de la guerre au Moyen-Orient qui a finalement détruit la demande interne en Europe, ce qui finalement crée une sorte de petite dépression ou au moins une chape de plomb sur la croissance européenne. Et vous avez de l'autre côté une économie américaine dont la demande finalement bénéficie en grande magnitude de l'investissement dans l'IA. On a finalement des consommateurs américains qui bénéficient d'un effet richesse grâce à leur exposition au marché actions. Et donc on sent qu'il y a une dichotomie sur les croissances de part et d'autre de l'Atlantique. Et ensuite, vous rajoutez une couche de politique monétaire où vous avez globalement une BCE qui semble vouloir mettre de l'eau dans son vin concernant la restriction monétaire, dans la mesure où on observe la baisse des prix des matières premières énergétiques. Et vous avez, de l'autre côté de l'Atlantique, un monsieur Warch, dont on ne connaît pas vraiment encore trop les intentions, mais globalement, on a eu droit à une conférence de presse très épurée de la part du nouveau gouverneur de la Réserve fédérale, qui n'a pas voulu donner son avis en termes de forward guidance. Et donc le marché, qu'est-ce qu'il a regardé? Il a regardé finalement le Summary of Economic Projections, donc ce résumé des visions macroéconomiques des membres du FOMC. Et que nous disent ces membres du FOMC? Eh bien, il faudra peut-être augmenter jusqu'à une fois les taux d'intérêt du côté américain pour pouvoir juguler l'inflation qui est en train d'intervenir de ce côté de l'Atlantique. Et donc, on a un marché qui est en train de réévaluer finalement les postures de politique monétaire, et on a cet impact tout à fait significatif sur la devise.
Si la Fed remonte ses taux, ça serait peut-être une mauvaise nouvelle pour le marché. À l'inverse, si la BCE s'arrête là, ça serait vraiment un ouf de soulagement, notamment pour les marchés européens qui sont pénalisés depuis le début de ce conflit par cette guerre et par les anticipations de resserrement monétaire.
Nous, on pense que c'est positif que la Banque Centrale Européenne n'aille pas plus loin dans sa restriction monétaire, parce que c'est une économie, l'économie européenne, qui n'a pas besoin à l'heure actuelle d'avoir une couche de restriction monétaire supplémentaire. Donc oui, dans un certain sens, c'est positif pour les actions européennes. Maintenant, la question, c'est de savoir si Madame Lagarde, finalement, change d'avis et on a juste une hausse symbolique. On peut se demander, finalement, où va la croissance européenne? Est-ce qu'au second trimestre, on va avoir une croissance telle que l'imagine la Banque Centrale Européenne? Pour un petit rappel, dans le scénario central de la Banque Centrale Européenne, on a une croissance en zone euro qui serait de l'ordre de 0,8% cette année. On a un acquis à l'heure actuelle de 0,1% avec le mauvais chiffre, qui était en partie dû à l'Irlande, certes, du premier trimestre. Donc finalement, on a quand même une croissance européenne qui va pâtir de ce choc énergétique, et il se peut que finalement, le choc sur les intrants détériore plus que prévu les marges des entreprises européennes.
En tout cas, le Bund, hein, donc le 10 ans allemand, est à 2,90 ce matin. Hein, il revient sur ses niveaux de début mars. Alors on ne revient pas encore sur les niveaux d'avant-conflit, hein, puisque quand vous regardez fin février, début mars, on était aux alentours des 2,65, donc sur cette référence en ce qui concerne le marché obligataire et le marché souverain. Dans ce contexte, aujourd'hui, ça ressemble à quoi l'allocation chez Natixis IM, Romain Aumont? Plusieurs fois sur ce plateau et avec Mabrouk Chetouane, hein, vous pilotez un petit peu les allocations. Vous étiez très confiant sur la tech. Alors c'est bien, ça marchait. Bon, on voit depuis quelques jours maintenant des interrogations. Hier, le Nasdaq a perdu 2% sans grande raison. Hier, c'était le Kospi qui a cédé du terrain. Bon, il a repris une partie ce matin, mais en tout cas, ce segment des semi-conducteurs continue de tirer la cote, mais continue également d'attirer et surtout de tirer la volatilité sur les marchés.
Absolument. Ce qu'on a observé sur le secteur technologique, c'est que globalement, on a des investisseurs, des hedge funds, des investisseurs institutionnels qui commencent à se demander est-ce qu'il n'y a pas un danger d'avoir finalement une telle concentration sur les marchés. Quand on regarde la cote coréenne, c'est tiré par deux entreprises. Et donc, quand ces deux entreprises font face à un mode risk-off sur une journée, eh bien, ça entraîne approximativement toute la thématique IA à travers le globe. Nous, on reste convaincus qu'on a de la croissance bénéficiaire qui est encore dans les tuyaux et que c'est ce qui va finalement tirer la performance de ces indices sur le reste de l'année. Il y a un coût d'opportunité à ne pas être exposé à ces indices. Et donc, vous avez bien évidemment de la volatilité, mais vous avez derrière finalement une performance qui vous rétribue. Donc, quand vous regardez le couple rendement-risque, eh bien, vous n'êtes pas nécessairement mis à mal dans ce genre d'allocation. Maintenant, nous, pour répondre à votre question, on a un petit peu allégé l'exposition aux actifs risqués américains. On s'est remis à la neutralité sur les actifs européens en pensant que finalement cette libération du détroit d'Ormuz allait être bénéfique, notamment du point de vue des matières premières énergétiques. Donc on reste quand même globalement très positif sur la croissance mondiale cette année, et on pense que rester exposé aux actifs risqués, dans tous les cas, ça reste une allocation qui est tout à fait rationnelle. Et on a tendance, vous parliez du marché des taux souverains, on a tendance à vouloir quand même rester sur une duration assez faible, dans la mesure où on s'attend à ce qu'il y ait toujours de la volatilité sur la partie longue de la courbe souveraine, que ce soit en Allemagne ou aux États-Unis, parce que vous avez des thématiques, la question de la posture des banques centrales, vous avez la thématique de la question de l'espace fiscal dont disposent les États. Et donc globalement, ce qu'on va chercher peut-être à faire, c'est aller s'exposer sur du crédit d'entreprise bien noté et de faible duration.
Et sur la partie action, les secteurs qui vous intéressent en dehors de la tech, vous parliez là de l'Europe, hein, vous avez revu un petit peu vos allocations sur l'Europe. Est-ce qu'il y a des secteurs là qui ont été massacrés ou oubliés, où vous dites tiens, il y a peut-être des points d'entrée?
Eh bien, dans ce contexte, on a observé finalement un aplatissement de la courbe depuis le début de l'année sur la courbe européenne, en sachant que les taux européens courts ont monté plus que les taux européens longs, et qui bénéficient d'une repentification potentielle si on a une banque centrale européenne qui finalement met de l'eau dans son vin. Eh bien, vous avez les financières et les bancaires qui pourraient tirer leur épingle du jeu, qu'on a mis un petit peu de côté durant cette année, et qui pourraient revenir sur la base d'une BCE beaucoup plus accommodante.
C'était le secteur phare de 2025, et c'est vrai qu'il a retrouvé des couleurs depuis le début du mois, avec bon nombre de valeurs dans ce secteur qui ont retrouvé leur plus haut historique. Merci beaucoup Romain Aumont, nous a accompagné ce matin, macroéconomiste et stratégie chez Natixis IM.